France Culture.
Le journal est signé Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Les bourses européennes dégringolent après les nouvelles menaces de Donald Trump sur les droits de douane. En pleine négociation commerciale avec l'Union européenne, le président américain met la pression et recommande de taxer les produits européens importés aux États-Unis à hauteur de 50%. Donald Trump et ses menaces mises à exécution contre le monde universitaire. Harvard dépose plainte après la décision de la Maison-Blanche d'interdire à l'institution universitaire l'accueil d'étudiants étrangers. La peine maximale de 20 ans de réclusion requise contre Joël Le Squarneck. À Vannes, l'avocat général réclame une série de mesures de sûreté contre l'ex-chirurgien pédocriminel en raison d'un risque très élevé de récidive. La mobilisation des taxis qui se poursuit aujourd'hui partout en France à la veille d'une rencontre avec le Premier ministre. Des centaines de taxis ont bloqué notamment les accès aux gares parisiennes pour protester contre la nouvelle tarification prévue par l'assurance maladie. Manifestation également de militants écologistes en marge de l'Assemblée générale de Total Énergie, dont les actionnaires doutent également de l'engagement du géant pétrolier vers une transition écologique. Enfin, nous reviendrons sur la carrière de Sebastião Salgado. Le photographe franco-brésilien célèbre autant pour ses clichés d'Amazonie que ceux des plus démunis. S'est éteint aujourd'hui à l'âge de 81 ans, après 50 ans de carrière. Un message posté sur les réseaux sociaux outre-Atlantique et des bourses européennes qui dévissent dans la foulée. Après avoir voulu imposer des droits de douane de 25% aux produits européens importés aux États-Unis, Donald Trump menace aujourd'hui de les monter à 50% et ce, dès le 1er juin prochain. Dans un message sur son réseau social Truth Social, le chef de la Maison-Blanche déplore que les négociations commerciales soient très difficiles avec les Européens, réaffirmant que l'Union européenne a été fondée essentiellement pour profiter des États-Unis. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture à Bruxelles. Alors qu'une trêve douanière de 90 jours a été conclue le mois dernier, ce message de Donald Trump, Fabien, est un nouveau coup de pression dans les négociations.
Oui, à n'en pas douter, hein. C'est comme ça qu'il est reçu en tout cas à Bruxelles, où les dirigeants des institutions européennes semblent s'habituer à ces coups de menton douaniers. N'avait-il pas déjà menacé début avril d'instaurer des taux à 25% avant de se rétracter quelques jours plus tard? Souffler le chaud et le froid en permanence, cela semble être partie intégrante de sa stratégie de négociation. Elles se poursuivent, ces négociations, un coup de fil qui était déjà prévu entre les délégations américaines et européennes a lieu en ce moment même. Pour l'instant, la Commission européenne se refuse à tout commentaire officiel, signe qu'elle ne prend pas la menace de Donald Trump comme une décision ferme, mais elle avait déjà brandi plusieurs menaces ces dernières semaines, comme celle de surtaxer les géants du numérique américain ou encore d'imposer des droits de douane sur 100 milliards de marchandises américaines en cas d'échec des négociations en cours. La menace du jour signée Donald Trump ne fait qu'ajouter un cran de plus au climat de tension dans lequel se déroulent les discussions, sous la menace de conséquences négative pour chaque partie, un choc inflationniste aux États-Unis et un abaissement des prévisions de croissance économique côté européen, en particulier pour les économies très dépendantes de leurs exportations, comme l'Allemagne, qui s'est insurgée cet après-midi contre les nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump.
Fabien Cazot à Bruxelles pour France Culture. Donald Trump, dont l'administration a décidé hier d'interdire à Harvard l'accueil d'étudiants étrangers, poursuivant donc son offensive contre la prestigieuse université américaine accusée de favoriser la violence, l'antisémitisme et de se coordonner avec le parti communiste chinois sur son campus. Eh bien, Harvard contre-attaque aujourd'hui et dépose plainte contre le tribunal de Boston, dénonçant une violation flagrante de la constitution américaine, car cette décision de la Maison-Blanche a un effet immédiat et dévastateur sur l'université et plus de 7000 étudiants détenant un visa, souligne l'institution. Claude Guibal.
La plus célèbre des universités américaines a déposé plainte devant le tribunal fédéral de Boston pour violation flagrante de la Constitution, une plainte dans laquelle l'université dénonce les effets dévastateurs et immédiats de la décision de Donald Trump, alors que le campus se vide à l'approche du grand week-end du Memorial Day qui marque la fin de l'année universitaire. Harvard dit exercer tout simplement son droit au premier amendement, le freedom of speech, la liberté d'expression, pour rejeter les demandes du gouvernement de contrôler la gouvernance de Harvard, son programme d'études, l'idéologie du corps enseignant et des étudiants pour beaucoup étrangers, 7000, 27% de l'effectif global. Les effets de cette annonce concernent ceux qui attendent d'intégrer l'université à la rentrée prochaine, mais aussi ceux qui poursuivent actuellement leurs études et que l'université essaie de rassurer. Ceux qui partent cette année réalisent que c'est la fin d'une époque, comme cet étudiant étranger interrogé par l'antenne locale de CBS.
Je suis extrêmement triste de partir en laissant cet endroit dans cet état, car je pense que Harvard sans étudiants internationaux ne sera tout simplement plus la même. Qu'est-ce qui rend Harvard si génial ? C'est pas ses dotations, son histoire, sa marque, c'est vraiment sa capacité à réunir les meilleures personnes du monde entier en un seul endroit. Et s'il n'est plus en mesure de le faire, l'enseignement supérieur de ce pays sera très différent.
Tous ont en tout cas le sentiment que Donald Trump veut imposer son contrôle sur les institutions indépendantes du pays, qu'il le fait en inspirant la peur. Tous espèrent aussi que le pouvoir judiciaire pourra l'empêcher de le faire.
Les explications de Claude Guibal aux États-Unis, on vient de l'apprendre. Un juge américain bloque à l'instant cette décision de la Maison-Blanche d'interdire à Harvard l'accueil des étudiants étrangers. Nouvel échange de prisonniers et civils entre la Russie et l'Ukraine. Moscou annonce avoir récupéré 270 militaires et 120 civils. Ville détenue par Kiev et capturée dans la région de Koursk. En échange, 270 soldats ukrainiens et 120 civils ont été remis à l'Ukraine, a précisé le ministère russe de la Défense. Des terrains de guerre en Ukraine ou au Proche-Orient, où le rôle des journalistes et fixeurs est essentiel. Une vingtaine de sociétés des journalistes de médias français, dont Radio France, appellent les autorités françaises à tout mettre en œuvre pour que ses collaborateurs dans la bande de Gaza et leurs proches soient évacués. Ces journalistes, fixeurs, chauffeurs, Gazaouis, avec lesquels travaillent les médias français depuis des années, sont aujourd'hui en danger de mort, alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou veut prendre le contrôle de toute l'enclave, insistent les signataires. Et les Palestiniens de Gaza subissent aujourd'hui la période peut-être la plus cruelle de ce conflit, dénonce pour sa part le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 20 ans de réclusion criminelle requis contre Joël Le Skouarnec. À l'issue de plus de 2 heures de réquisitoire, le représentant du ministère public a donc réclamé la peine maximale à l'encontre de l'ancien chirurgien jugé à Vannes depuis le 24 février pour viol et agression sexuelle aggravée sur 300 patients, pour la plupart mineurs au moment des faits. Le magistrat a également demandé une peine de sûreté des 2/3 et une rétention de sûreté. Des réquisitions rares, Marc Gostive, mais motivées, dit le procureur, par l'extrême dangerosité de Joël Le Skouarnec.
Oui, l'idée de ces réquisitions, c'est de limiter au maximum la possibilité pour Joël Le Skouarnec d'être libéré un jour. Le procureur a donc demandé à ce qu'il purge au minimum 13 ans sur les 20 ans de réclusion requis contre lui. Il a demandé surtout une rétention de sûreté, une mesure complémentaire rare, réservée aux criminels les plus dangereux et qui l'oblige à passer devant une commission après avoir purgé sa peine, commission qui décide ou pas de le remettre en liberté. C'est le maximum de ce qui pouvait être requis, mais pour l'avocat général, jamais la peine maximale n'aura trouvé meilleur fondement que dans cette affaire. Un dossier au-delà de l'entendement et de l'abjection, dit le procureur, 300 faits d'une cruauté brutale, mais surtout un accusé d'une grande dangerosité avec un risque de récidive très élevé, martèle l'avocat général, dont les mots ont touché visiblement les parties civiles. Après 2h30 de réquisition, beaucoup sont allés le voir pour lui dire merci. On a, disent plusieurs, la sensation d'avoir été entendu.
Margot Steve. La mobilisation des taxis se poursuit pour la 5e journée consécutive. Opération Escargot, sur la 36 entre Belfort et Besançon, ou encore sur le boulevard Raspail à Paris, près du ministère des Transports, où près d'un millier de taxis se sont retrouvés. Des taxis toujours remontés contre la concurrence des VTC, mais surtout la nouvelle convention régissant le transport de patients et la tarification que l'assurance maladie veut leur imposer à l'automne prochain. Les taxis ont obtenu une réunion demain au ministère des Transports en présence du Premier ministre François Bayrou. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce que changerait concrètement cette nouvelle convention pour les taxis ?
Fini les grandes variations entre les territoires, les prix négociés au niveau local. Les taxis seront tous rémunérés sur la base d'un même forfait de prise en charge, puis une tarification kilométrique, elle, calculée dans chaque département. Surtout, le nouveau système doit les inciter à éviter les retours à vide et à faire du transport partagé, installer donc dans une même voiture plusieurs patients qui vont dans la même direction. L'objectif est assumé, ralentir l'explosion des dépenses liées au transport sanitaire en taxi, en hausse de 45% depuis 2019. Selon les simulations de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec cette nouvelle tarification, ce sera favorable aux taxis conventionnés dans les 2/3 des départements. Mais de leur côté, les syndicats de taxi estiment qu'avec la baisse du nombre de courses et l'entrée en vigueur de nouvelles contraintes, notamment un système de bonus-malus pour les conducteurs qui ne feraient pas assez de trajets partagés, trop d'entre eux vont finir perdant. Or, selon la FNDSEA, FNDT, la Fédération nationale du taxi. Pour certains d'entre eux, cela représente parfois 80% de leur chiffre d'affaires. Reste à savoir si des changements du dispositif vont être négociés à la réunion de demain. Car selon Anne-Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement, je la cite, l'exécutif ne compte pas faire machine arrière.
Diane Berger, une assemblée générale dans une tour à huis clos et sous haute sécurité. Le géant pétrolier Total Energy a tenu son AG cet après-midi dans ses bureaux du quartier de la Défense à Paris, dans l'espoir de maintenir les militants écologistes à distance après 2 années mouvementées. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
Les militants écologistes qui ont organisé tout de même 2 actions aujourd'hui dans la capitale. Et ils ne sont pas les seuls, Jeanne, à douter de l'engagement écologique de l'entreprise. Les actionnaires, eux aussi, ont exprimé cet après-midi leurs réserves.
Oui, car pour la première fois de son histoire, Total Energy a consacré une partie de son AG à un temps d'échange avec les actionnaires, invités à poser leurs questions sur la stratégie climat de l'entreprise directement au PDG. Patrick Pouyanné, dans le rôle du professeur, distribue la parole.
Bonjour Monsieur le Président. Ma question fondamentale était pourquoi vous n'avez pas beaucoup parlé d'hydrogène ?
Et il prend le temps de répondre.
Qu'on a considéré que c'était pas un business qui contribuerait rapidement à notre mix. À la fin, il faut que les clients et qu'on produise une énergie qui soit abordable. Aujourd'hui, si on faisait une combinaison éolien solaire et de centrale à hydrogène, vous n'achèteriez pas l'électricité qui serait produite.
Dans une période marquée par le recul des investissements dans les renouvelables, Total Energy se distingue de ses principaux concurrents. Patrick Pouyanné martèle encore cet après-midi une conviction.
L'électricité sera l'énergie de ce 21e siècle, car c'est l'énergie qui va nous permettre efficacement de décarboner notre vie.
Objectif fixé d'ici 2030, porté à 20% la part de l'électrique dans le mix énergétique du groupe, contre 11% actuellement, tout en continuant d'investir dans les hydrocarbures, gaz naturel liquéfié et pétrole. Ils sont nécessaires, insiste Patrick Pouyanné, pour répondre à une demande mondiale toujours en hausse. Une stratégie climat qui n'a pas été soumise au vote des actionnaires et qui suscite l'indignation chez les militants écologistes réunis aujourd'hui à Paris. Publicité mensongère, ont-ils scandé, avant de se faire encercler clé par les forces de police. Total Energy qui devra prochainement se défendre de ces accusations portées par plusieurs ONG devant le tribunal de Paris. L'audience doit se tenir le 5 juin.
C'est bien noté. Merci beaucoup Jeanne Serrin. Du pétrole, il y en a aussi dans nos assiettes. C'est ce que révèle en tout cas la cellule d'investigation de Radio France aujourd'hui à travers des résultats d'analyse de laboratoires qui ont testé la présence d'hexane dans 54 produits alimentaires. 25 en avaient. Ce solvant chimique est utilisé dans la fabrication de l'huile, mais aussi de certains aliments pour le bétail. Et non seulement il peut en rester des traces dans l'huile végétale, mais aussi dans le beurre, les œufs ou encore la viande. Bonsoir Anne-Laure Barral.
Bonsoir.
Alors si vous êtes intéressé à cette hydrocarbure, c'est parce que certains députés veulent l'interdire dans notre alimentation, mais aussi parce qu'il est très dangereux pour ceux qui le manipulent.
Oui, l'hexane a déjà tué. Ce solvant pétrolier très volatile est utilisé pour extraire le maximum d'huile des graines de soja, de colza ou de tournesol avant qu'elles ne finissent dans la nourriture des animaux d'élevage. En février 2018, 2 ouvriers sont morts à cause d'une explosion d'hexane dans un site industriel de Dieppe alors qu'ils intervenaient pour réparer une machine en panne. Un de leurs collègues, Stéphane Choreau, était lui aussi présent sur place.
C'était bloqué, il fallait pomper tout le produit pour faire repartir la machine, quoi. Le but du jeu, c'est que l'usine marche le lendemain matin ou aussitôt, quoi. Moi, j'avais un collègue, quand ça a pété, il était dedans. On n'aurait jamais dû faire chantier, là. Ça aurait dû ventiler pendant peut-être 3-4 jours, une semaine, quoi, vous voyez. Là, c'était vraiment de l'urgence. Il fallait que ça marche, quoi. Voilà. Et vite, voilà. Je savais que les deux étaient morts. Hein. Voilà. J'avais pas de chance de survivre, donc faut pas rêver. Quoi.
Et en mars dernier, le propriétaire de cette usine, qui appartient au groupe Avril, dirigé par Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, a été condamné pour homicide involontaire. Gérald Lecor, responsable des questions de santé au travail pour la CGT de Seine-Maritime, était partie civile dans cette affaire et il réclame, lui, depuis longtemps que les ouvriers ne soient plus exposés à ce risque mortel.
C'est le béaba de la prévention des risques, la suppression d'un produit extrêmement explosif qui est en plus dangereux pour l'inhalation. On a une documentation qui nous montre qu'on sait faire autrement pour de l'extraction. L'hexane devrait très clairement être interdit de ce procédé industriel.
Alors non seulement l'hexane tue parfois des ouvriers, mais ses vapeurs les ont aussi rendus malades avec des paralysies des bras, des maux de tête, des vomissements. C'est en étudiant ce qui est arrivé à ces professionnels que les toxicologues ont pu dire dès les années 70 qu'il s'agissait d'un produit neurotoxique et néfaste pour la reproduction.
Et donc ce produit neurotoxique, Anne-Laure, on en mange un peu tous les jours.
Oui, alors d'infimes traces reconnaissent du bout des lèvres les professionnels de l'agroalimentaire et surtout jamais au-dessus du seuil de tolérance fixé par l'Union européenne il y a plus de 30 ans, mais que l'Agence européenne de sécurité sanitaire envisage aujourd'hui de revoir à la baisse. Une situation qui n'inquiète pas pour autant le secteur, explique Hubert Bocquelet, délégué général de la Fédération nationale des corps gras.
Quelque part, c'est un produit naturel. Même s'il est dérivé du pétrole, c'est un produit naturel. Donc on parle de résidus techniquement inévitables. Donc c'est vraiment des traces, des teneurs infinitésimales. Il n'y a pas d'alerte sanitaire sur la présence d'hexane dans les aliments. Maintenant, on est au niveau européen dans un exercice de réévaluation, comme l'Europe réévalue régulièrement un certain nombre de composés qui peuvent être utilisés.
Et l'Agence européenne de sécurité sanitaire va commencer son travail de collecte de nouvelles données scientifiques dès le mois prochain. En France, le député Richard Ramos, déjà pourfendeur des nitrites dans la charcuterie, lui compte mener une mission d'information sur l'hexane à la rentrée.
Enquête signée Anne-Laure Barral, cellule investigation de Radio France. Célèbre pour avoir capturé en noir et blanc les visages de la pauvreté et des guerres dans le monde, le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est décédé aujourd'hui à l'âge de 81 ans, annonce faite par l'Académie des Beaux-Arts françaises dont il était membre. Bonsoir Pierre Ropert.
Bonsoir.
Alors durant 5 décennies, cet autodidacte et globetrotteur a photographié les trésors comme la misère de notre planète.
Oui, il était réputé pour la puissance de ses photographies en noir et blanc dans lesquelles il capturait autant des environnements naturels dévastés que les personnes qui y vivaient. Le photographe Sebastião Salgado, né dans une ferme isolée au Brésil en 1944, alors qu'il se destinait à devenir avocat ou économiste, il fuit pourtant son pays natal en 1969 pour échapper à la dictature militaire qui sévit. C'est en France qu'il se réfugie et là qu'il se met à la photographie. Il y décèle alors, comme il le racontait dans l'émission Masterclass sur France Culture en janvier 2020, les traces de sa petite enfance.
On avait une ferme dans une région très vallonnée et quand la pluie, quand elle va arriver, on a des ciels que j'ai jamais vus si beaux et si importants de ma vie. Et on était dans cet univers de lumière, de formes, de volume, et qu'aujourd'hui, quand je vois la lumière qu'il y a dans ma photographie, je sais qu'elle est venue de là. Sans que je le sache, un peu de l'art a entré dans mon esprit quand j'étais très petit.
Dès 1973, Salgado se tourne vers le photojournalisme et fait ses armes chez l'agence Sigma avant de passer par Gamma ou encore Magnum. En 1998, il finit par fonder sa propre agence, Amazonas Images, mais Salgado surtout parcourt le monde appareil photo en main, en commençant par l'Amérique latine. En 1990, son projet La main de l'homme le mène à travers plus de 40 pays pour montrer la réalité du travail manuel et les effets de la globalisation. Un de ses derniers projets, nommé cette fois Genesis, se voulait une véritable ode à la nature et mettait en scène les paysages et les communautés qui y vivaient encore selon des traditions ancestrales. Couronné de nombreux prix, Sebastião Salgado avait annoncé en février 2024, alors tout juste âgé de 80 ans, prendre sa retraite. Une exposition lui est consacrée en ce moment même et jusqu'au 1er juin aux Franciscaines de Deauville.
Pierre Ropert, ultime journée de compétition au 78e Festival de Cannes, avec de sérieux candidats à la Palme d'Or aujourd'hui et habitués du festival, à savoir les Frères d'Ardenne. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Julie.
Les cinéastes belges, déjà détenteurs de 2 palmes d'or, espèrent en remporter une troisième avec Jeune Mère, quand le jeune réalisateur chinois Bigan a fait son entrée en compétition avec Résurrection.
Oui Julie, il a 35 ans, il est donc avec l'Iranien Saïd Roustaï le Benjamin de la compétition. Bigan n'est pas pour autant un inconnu. Kylie Blues, retour méditatif et onirique en terre natale, avait déjà fortement marqué il y a 10 ans, notamment par son utilisation stupéfiante du plan séquence aérien étouffé à la main, et son long voyage vers la nuit de 2018 l'avait durablement installé au panthéon des espoirs cinéphiliques. 7 ans après, il revient avec un tout aussi long, très long voyage dans d'autres nuits, celle des salles de cinéma, puisque à l'instar du Holly Motors de Léos Carax, Résurrection ambitionne de traverser en plusieurs récits un siècle d'histoire du 7e art, de l'arroseur arrosé des Frères Lumière et des féeries de Georges Méliès, jusqu'aux déambulations urbaines nocturnes et colorées d'un Houssiaoussien, en passant par les films de monstres, de gangsters et de science-fiction. Alors même si on en salue l'originalité et l'invention formelle, ce retour à rien mortifère du cinéma sur lui-même, nostalgique d'une époque pré-numérique, tourne malheureusement souvent à l'étalage de virtuosité indéniable, mais trop autoconsciente pour pleinement convaincre. À l'autre extrémité de la pyramide des âges canoise, il y a donc les vétérans de la compétition, Jean-Pierre et Luc Dardenne, 74 et 71 ans, pour la 9e fois en lice, après y avoir remporté 6 prix, dont vous l'avez dit, 2 palmes d'or. Et pourtant, les Belges arrivent encore à nous surprendre et à nous toucher en plein cœur. D'abord parce qu'ils remettent leur cinéma en jeu, en s'essayant pour la première fois au film choral. Jeune mère entrecroise en effet les destins de 5 jeunes filles, confrontées, comme dans chacun de leurs films pour le coup, à des choix moraux et à l'espoir de voir leurs enfants échapper aux déterminismes sociaux. La grande nouveauté, c'est que les Dardenne n'ont plus peur, sans aucun sentimentalisme, d'oser l'émotion qui plusieurs fois nous a saisis au moment les plus inattendus. Le plaisir des larmes fut d'ailleurs un des grands motifs de cette année.
Antoine Guillot en direct de Cannes, merci. Un mot de météo demain matin avec le retour d'une perturbation par le nord-ouest du pays. Des petites pluies sont attendues des côtes de la Manche à la frontière belge. Le ciel restera nuageux, donc sur une grande moitié nord. Les températures restent fraîches au réveil. Elles affichent 1 à 7 degrés sur le nord-est jusqu'à l'Auvergne et 6 à 13 degrés en moyenne sur le reste du pays.